poussière et granit. Présenté par Christian Delors.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Alliance Plus 103.2 FM, DAB+, et notre site internet radioalliance-plus.fr. Voici Poussière et Granit, au micro Christian Delors et à la technique Louis Esparcel. Nous nous approchons du mois de septembre. Nous commencerons donc cette émission en évoquant la célèbre assemblée du Musée du Désert et une ou deux autres rencontres intéressantes qui auront lieu d'ici là. Puis nous reviendrons au numéro spécial de l'hebdomadaire Réforme sur la question de l'eau avec des citations de trois articles qui m'ont paru particulièrement intéressants à propos du scoutisme, à propos des diverses pratiques du baptême et sur l'eau et la musique. Voici le rappel de quelques rencontres importantes en cette fin du mois d'août. Le dimanche 7 septembre prochain, à partir de 10h30, ce sera la célèbre Assemblée du désert au Musée du désert à Mialet, autour du thème « L'esprit souffle où il veut », 1525-2025, 500 ans d'une extraordinaire diversité protestante. Le 21 janvier 1525, à Zurich, un petit groupe d'adhérents à la Réforme contestant le baptême des petits-enfants célèbre les premiers baptêmes d'adultes confessants. L'anabaptisme est né. Condamné par les réformateurs, durement persécuté et exilé, les anabaptistes persisteront pourtant dans leur foi au fil des siècles. Ils sont à l'origine de nombreux courants comme ceux des Mennonites ou des Baptistes, et leur exemple se lit souvent en filigrane des mouvements de réveil évangélique jusqu'au temps présent. Bien loin de constituer une mouvance monochrome, les héritiers de l'anabaptisme du XVIe siècle se présentent au contraire dans une extraordinaire diversité. Et si de nos jours la presse associe souvent les évangéliques à une forme plutôt conservatrice du christianisme, nombre d'entre eux n'en contribuèrent pas moins à la culture moderne et à la modernité politique, comme Roger Williams en Nouvelle-Angleterre, le pasteur Martin Luther King, le musicien Bob Dylan ou encore Madeleine Blocher-Saillant, la première femme pasteur en France. Retournant aux sources d'un mouvement dont nous commémorons cette année le 500e anniversaire, l'Assemblée du désert 2025 mettra à l'honneur certains aspects de la contribution évangélique à l'histoire du protestantisme et à cette pluralité qui fait sa richesse. Le culte à 10h30 sera présidé par le pasteur Christian Krieger, président de la Fédération protestante de France. L'après-midi, on entendra les allocutions historiques de Neil Blow, faculté de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine, et de Sébastien Fatt, du CNRS. Le message final sera donné par la pasteur Joël Sutter-Razanazoari, Fédération des Églises évangéliques baptistes de France. Profitons-en pour rappeler qu'une exposition temporaire est présentée dans la cave voûtée du musée. Exposition intitulée « La Bible des contrastes » de Henri Lindegarde. Pour le pasteur Henri Lindegarde, 1925-1996, qui a exercé ses talents de peintre au Mas Soubeyran, l'image est une prédication pour les yeux qui nous conduit au plus profond du sens de la parole que Dieu adresse à chaque homme. On peut aussi signaler qu'au temple de Mialet, jusqu'au 28 août, une exposition de diverses œuvres de Henri Lindegarde sera présenté et qu'une conférence aura lieu le 27 août à 20h30 sur le thème « Quand la Bible inspire les artistes », conférence qui sera donnée par Jérôme Cotin, professeur de théologie pratique à la faculté de théologie protestante de l'Université de Strasbourg. Plus loin d'ici, à Beaussé-Vitré dans les Deux-Sèvres, jusqu'au 31 août, sera présentée une exposition sur le thème « Coexistence catholique et protestant dans les Deux-Sèvres 1517-1905 ». Les modalités de coexistence entre deux confessions issues d'une même origine, du mardi au dimanche de 14h30 à 18h30, ce c'est au musée du Poitou protestant, place de la mairie, à Beaussé-Vitré, dans les Deux-Sèvres. L'eau si précieuse. C'est le thème du numéro spécial de l'hebdomadaire protestant Réforme, numéro 4100, numéro de 24 pages paru en juillet dernier. Je voudrais maintenant revenir sur ce numéro. Laure Salamon, envoyée spéciale sur place à Sainte-Soline, y propose un article intitulé « Les éclaireurs unionistes n'en perdent pas une goutte ». En pleine nature, l'eau est à la fois rare et précieuse pour les camps de scouts. Réforme s'est penchée sur leur rapport à l'eau et la consommation, ainsi que la façon dont le scoutisme tente de faire réfléchir les jeunes sur ce bien commun de l'humanité. Le lieu de camp de l'unité de Sèvres, Hauts-de-Seine, des éclaireuses et éclaireurs unionistes de France, EEUDF, se trouve à proximité de Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres. Cette commune avait fait les gros titres en raison des violents affrontements du 25 mars 2023 entre forces de l'ordre et militants écologistes opposés à la construction d'une méga-bassine. Portée par des agriculteurs réunis au sein de la coopérative de l'eau des Deux-Sèvres, cette installation doit permettre de stocker de l'eau en surface afin d'irriguer les cultures, principalement de maïs en période de sécheresse. J'en avais entendu parler, reconnaît Lucas, un des jeunes participants, mais je n'avais pas compris ce qui se passait vraiment. Pour que les jeunes comprennent les conflits pour l'eau dans cette région en proie aux sécheresses, les animateurs ont donné quelques explications. Le visionnage d'un documentaire et une rencontre avec un agriculteur militant sont aussi au programme du séjour. L'eau a été choisie comme fil conducteur pédagogique. Quand nous avons visité le camp, nous nous sommes aperçus que c'était juste à côté de Sainte-Soline et nous avons eu l'idée de faire réfléchir les éclairs sur ce thème, explique Antoine Mathieu, le directeur de ce camp d'éclaireurs pour les 12-16 ans. Dimanche soir, le groupe a vécu un temps spirituel sur le partage de l'eau. D'abord, nous avons fait un relais pour apporter de l'eau d'un endroit à un autre. Les équipes avaient des contenants différents. Les mains, ou bien un quart, une petite gamelle, ou une grande gamelle, explique Eva, pilote de l'équipe des électriciens. Ensuite, nous avons réfléchi à partir de textes bibliques, dont celui où Moïse aide des jeunes filles à donner de l'eau aux chèvres alors que les bergers les en empêchent. Et celui de Jésus qui propose de l'eau à une dame en lui disant qu'elle n'aura plus jamais soif, complète Gabriel. Nous avons ensuite débattu ensemble, décrit Violette. Si tout le monde partage l'eau, on peut tous en avoir, alors que si certains la mettent de côté, par exemple dans les méga-bassines, ou pour la vendre, ce sont d'autres qui n'en ont pas et vont souffrir du manque. La discussion glisse vite vers le fait que l'eau est une denrée rare dans un camp, contrairement à ce que les éclaireurs connaissent chez eux. Ainsi, ils expérimentent la réduction de consommation d'eau dans leur quotidien. C'est donc un extrait d'un article de Laure Salamon paru dans le numéro 4100 de l'hebdomadaire Réforme. Je voudrais aussi citer un article du directeur de réforme, Antoine Nuis, à propos de baptême, article paru toujours dans ce numéro 4100 de réforme sur le thème de l'eau. Le baptême, point de clivage au sein du protestantisme, tel est le titre de cet article. Dans le dialogue avec l'Église catholique, les luthéraux réformés ont une compréhension différente de la scène, mais pas du baptême. Alors que dans le dialogue entre les différents courants du protestantisme, c'est l'inverse. Ces dernières années, les positions ont eu tendance à se rapprocher. Les églises protestantes divergent sur leur compréhension du baptême. Certaines préconisent le baptême des enfants comme signe de la grâce première de Dieu. D'autres ne reconnaissent que le baptême de confessant comme marque de l'entrée dans la communauté. Certaines de ces églises vont même jusqu'à proposer un nouveau baptême à ceux qui ont été baptisés enfants. Enfin, certains courants très minoritaires rejettent le sacrement en estimant qu'il a été facteur de division et qu'il n'a plus beaucoup de sens pour aujourd'hui. La parole suffit. Il convient de décrypter le sens des deux premières conceptions. Le baptême des petits souligne la grâce première de Dieu. En baptisant un enfant, l'Église lui dit « Toi, petit homme, tu es encore tout fragile et tu ne comprends pas ce que tu fais là, tu n'as rien demandé et quand tu seras plus grand, tu ne te souviendras même pas de ce jour. Pourtant, par ton baptême, nous affirmons que tu es enfant de Dieu, ton nom est gravé dans la paume de sa main. Avec l'eau, nous te bénissons dans le signe de la mort et de la résurrection du Christ. » Les paroles sur l'amour inconditionnel de Dieu sont justes, mais elles sont dévoyées lorsqu'elles deviennent des oreillers de paresse pour justifier notre conformisme le plus plat. En réaction à cette dérive, certaines églises annoncent que si le baptême est le signe de l'entrée dans la communauté, il doit être le fruit d'une conversion et être précédé d'une confession de foi. Dans cette conception, le baptême n'est pas le signe d'une grâce inconditionnelle offerte à tous, mais celui de la réponse que nous apportons à cette grâce. Le baptême des confessants se fait le plus souvent par immersion pour symboliser la mort de l'être tourné sur lui-même et la naissance de l'être renouvelé par l'Évangile et l'amour de Dieu. C'est donc un extrait d'un article d'Antoine Nuis intitulé « Le baptême, point de clivage au sein du protestantisme » paru dans le numéro spécial sur l'eau de l'hebdomadaire Réforme numéro 4100. Puisqu'il est question d'eau, je voudrais citer un extrait de l'article de Frédéric Cazadessus, paru dans ce numéro spécial de réforme sur l'eau, article intitulé « L'eau dans la musique ?» À trop nous pencher sur le sujet, nous risquerions de nous noyer. Depuis Water Music de Handel jusqu'à la fête des belles eaux de Messiaen, bien sûr en passant par la Moldau de Smetana, la mer de Debussy, les partitions ne manquent pas qui se réfèrent au troisième élément. Mais c'est au sein du répertoire pour piano que se dessine une relation singulière entre la musique et lui, les compositeurs combinant avec plus de ferveur que pour l'orchestre le mouvement de la nature et les forces de l'esprit. Dans ce domaine, un homme fait figure de chef d'école. Franz Liszt, hongrois, par la naissance à n'en pas douter, mais tzigane par fidélité, cosmopolite par l'esprit, womanizer avant l'heure. Franz Liszt est né le 22 octobre 1811, il est mort le 31 juillet 1886. On n'imagine pas la célébrité qui fut la sienne à ses débuts. Premier grand virtuose du piano, il menait grand train, parcourait les capitales d'Europe entouré d'une cour énamourée. L'évocation de l'eau n'est donc pas seulement descriptive. elle reflète aussi la tendresse et l'intensité des sentiments partagés. Dans le recueil évoquant l'Italie, le compositeur glisse une autre pièce aquatique, « Les jeux d'eau à la Villa d'Este », observe Jean-Yves Clément. Mais cette fois, la dimension spirituelle s'invite dans la partition, puisque Liszt écrit au milieu de son manuscrit cette citation « Celui qui boira de cette eau ne sera jamais plus altéré, car l'eau que je lui donne ainsi sera pour lui source de vie éternelle. » Jean chapitre 4, verset 14. C'est donc un petit extrait de l'article que Frédéric Casadesus consacre à l'eau dans la musique dans ce numéro 4100 de Réforme. Pour terminer, une ou deux recommandations des éditions Olivetan. Tout d'abord, le livre intitulé « Le moine Philémon de Gaza médite l'évangile de Jean ». Après l'évangile de Marc, de Matthieu et de Luc, voici le quatrième et dernier évangile médité par le moine Philémon. Au gré de sa prière contemplative, ce moine oriental écoute en lui l'écho du récit évangélique, contemple Jésus, adore la Trinité, se laisse interpeller par l'incompréhension ou le manque de foi des disciples, comme s'il était lui-même avec eux sur les chemins de Galilée ou dans les cours du Temple de Jérusalem. Pour la première fois en français, et probablement pour la première fois publiée, la profonde et lumineuse méditation de l'évangile de Jean par le moine Philémon de Gaza quitte la discrétion des monastères. Pourtant vieille de 15 siècles, elle rejoint le lecteur d'aujourd'hui dans sa marche de foi. Le traducteur du manuscrit de Philémon, moine contemporain anonyme, a confié son travail à Daniel Bourguet, qui édite et annote l'œuvre pour que les lecteurs en saisissent toutes les subtilités. Et puis un autre livre, beaucoup plus petit, intitulé « Aux marges », dans la collection « À voix haute », conférence de l'Institut protestant de théologie, un petit volume de réflexions théologiques pour faire dialoguer l'acquis maîtrisé et la marge inattendue. C'est donc aux éditions Olivetan. Le premier, c'était « Le moine Philémon de Gaza médite l'évangile de Jean » et le second, c'était « Aux marges ». Nous allons maintenant terminer cette émission. Je vous rappelle que « Poussière et granit » que vous êtes en train d'écouter est diffusé le mardi à 8h20, le jeudi à 11h15 et le dimanche à 10h10. Juste avant la diffusion du service protestant. Au revoir.